La Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous. Alors nous avons quitté la Tchécoslovaquie et ses créatrices du 7e art et comme c'est toujours notre sujet du moment, nous nous transportons d'un coup d'aile en Russie, où j'imagine déjà sans peine les grandes plaines enneigées et où devant mes yeux défilent des églises, des cathédrales ou des monastères avec leurs curieux dômes multicolores en forme de figues, lesquels imposent dans les grandes villes leur singularité au milieu parfois de l'architecture massive datant du stalinisme. Alors la Russie, c'est aussi les datchas en bois dans les campagnes, ces petites maisons pittoresques typiquement russes, le folklore coloré, et tout ceci en dehors ou malgré les événements politiques qui ont transformé le pays en URSS. Alors l'âme russe s'exprime toujours au travers de la mélancolie de ses chants, des couleurs de ses costumes, de ses images, ces miniatures que l'on retrouve sur divers objets en bois peint laqué. Bref, vous avez compris que je suis encore en train de rêver et peut-être aussi de planter le décor dans lequel nous allons évoluer en compagnie de nos créatrices. Et justement, grâce à ce petit effort d'imagination, nous voilà aussi transportés dans le temps au 19e siècle, en 1881 très exactement, avant les événements de la révolution bolchévique et date de la naissance de notre première artiste russe, une des pionnières qui a contribué à dégager la voie royale qui mène au cinéma, en collaboration néanmoins avec des pionniers masculins qui apparemment lui ont laissé la place pour s'exprimer. Car elle a débuté sa carrière en tant qu'actrice et actrice à succès. Alors, qui est-elle? Eh bien, elle se nomme Olga Preobrajenskaya, qui débutera sa carrière de comédienne à 20 ans au Théâtre d'Art de Moscou pour la poursuivre dans d'autres théâtres de province jusqu'en 1913, où c'est au cinéma qu'elle utilisera ses talents de comédienne qui lui apporteront le succès. Elle jouera ainsi et surtout dans des adaptations de classiques russes comme « Guerre et paix », par exemple, tiré du roman de Léon Tolstoï. Alors, son premier rôle à l'écran sera celui d'une danseuse dans un film intitulé « Les clés du bonheur », réalisé par Vladimir Gardine, l'un des fondateurs de l'Institut national du cinéma, institut qui fut avalisé par le gouvernement bolchévique de l'époque. Gardine apparemment deviendra le mari d'Olga Preobrajenskaya, et selon ce que j'ai lu, ce film est une adaptation d'un roman dit populaire écrit par Anastasia Verbitskaya, où il est question d'émancipation, de liberté sexuelle pour les femmes et de la reconnaissance de leurs droits. Bon, apparemment, le sujet était à l'ordre du jour, porté aussi bien par les hommes, on le dirait, que par les femmes. Et également, selon ce que j'ai pu lire sur la romancière russe Anastasia Verbitskaya, laquelle est née en 1861. Elle était également écrivaine de scripts pour des films et écrivaine de pièces de théâtre. Et son intérêt majeur en littérature, c'était de traiter de la condition féminine, de veiller à l'épanouissement de la femme dans tous les secteurs de la vie, si bien qu'elle fut membre de plusieurs organisations caritatives en faveur des femmes. Donc, voilà encore une femme qui s'investit dans la création littéraire, mais aussi que nous retrouvons dans le milieu cinématographique, et ce, en faveur de ses congénères. Alors, pour revenir à Olga Preobrajenskaya, j'ai réussi à ne pas écorcher le mot, c'est déjà pas mal. Elle tournera souvent avec le réalisateur important du moment, nommé Yakov Protasanov. Puis elle deviendra par la suite scénariste pour se lancer dans la réalisation à partir de 1925 et ce jusqu'en 1941. Et en tout, elle réalisera 9 films, dont un qui restera dans les mémoires. Alors celui-ci s'intitule « Les femmes de Riazan », sorti en 1927, et qui sera diffusé en France sous le titre « Le village du péché ». Alors c'est un film muet qui dure plus d'une heure, il est réalisé en noir et blanc, et remportera un franc succès à l'international. Alors, la trame de l'histoire, il est question de deux jeunes gens dans le village au nom de Riazan, qui est situé à peu près à 200 km de Moscou. Et ces deux jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre. Hein. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et il est prévu qu'ils se marient. Bon, c'est aussi dans l'ordre des choses, bien souvent. Mais malheureusement, la guerre envoie le jeune homme sur le front et son père, l'horrible personnage, profite de l'absence de son fils pour violer la jeune fille et la mettre enceinte. Alors inutile de vous dire qu'il s'agit d'un drame, car le jeune homme rentrera de guerre 2 ans après et il sera incapable de comprendre la jeune femme qu'il repoussera et celle-ci, désespérée, ayant perdu son honneur, ayant perdu l'amour de sa vie, ne trouvera plus déçu que de mettre fin à ses jours. Alors cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une autre femme qui est la sœur du jeune homme. Et elle retrouvera son mari après la guerre et elle fondera un orphelinat. Alors il est dit que ce film serait le premier film féministe de l'ère soviétique. Alors ce film témoigne également de la vie dans les villages avec des traditions. C'est un film qui a été restauré dans les années 2000. On lui a rajouté des chants et de la musique. Bon, à part ce film, elle en a tourné d'autres, en collaboration également, comme avec Ivan Pravov, comme celui intitulé « La dernière attraction » de 1929. Avec le même réalisateur, elle réalise en 1939 un film de presque 2 heures, intitulé « Stepan Razin ». Or, c'est un personnage historique et la trame, il s'agit en gros d'échanges diplomatiques entre Cosaques et Tatars au XIXe siècle. Alors, d'autres films encore, où là, elle réalise seule, comme en 1941, celui intitulé « Prairie Station », un film noir et blanc d'une durée d'1h22. Bon, je dois dire, j'ai pas tellement d'informations sur tous ces films. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle a tourné des drames, des films historiques. Bon, voilà globalement ce que je peux vous dire de sa filmographie. Alors, elle deviendra également enseignante à l'Institut supérieur cinématographique d'État, fondé par l'acteur-réalisateur Vladimir Gardine, qui deviendra l'Institut fédéral du cinéma. Et elle y enseignera. Dans cet institut pour lequel elle a également participé à sa création et elle y restera jusqu'en 1925. Et elle décédera en 1971 au bel âge de 90 printemps. Alors que diriez-vous de faire notre petite pause musicale avec une musicienne russe? Alors, si vous écoutez La Voix des Arts, vous vous souviendrez peut-être que j'ai déjà présenté des compositrices russes de la fin du 19e, début du 20e siècle. Si mes souvenirs sont bons, il y en avait 4, et je crois que pour certaines, vous avez pu apprécier leurs compositions. Alors, celle que je vous présente arrive à La Voix des Arts ce jour, pour ajouter ses compétences à celles de ses collègues musiciennes, puisque nous allons écouter une de ses compositions. Et elle se nomme Nina Vladimirovna Makarova. Elle est née en 1908, pour décéder en 1976. Et figurez-vous qu'elle était l'épouse du célèbre compositeur Aram Khatchatourian. Je vois la mine dubitative de notre technicienne. Elle a donc étudié la musique avec lui avant de devenir son épouse et également avec un compositeur russe plutôt important et réputé surtout en Russie, nommé Nikolaj Miakovski. Alors à son actif, ben, j'ai dénombré à peu près une vingtaine de compositions, dont des sonates, des études pour piano, des chants, sans compter les mélodies pour divers instruments comme hautbois, violon, piano bien évidemment, et également de la musique de film que je n'ai pas trouvée, à part des titres en anglais, The Change of Luck, qui est traduit par Changement de chance, et In the Country of the Dollies, dans le pays des Dollies. Et elle a également coécrit des pièces avec son mari. Mais pour l'heure, nous allons écouter le début de la symphonie qu'elle a écrite en 1938.
Thank you.
Revenons à nos réalisatrices russes, dont l'une d'elles se nomme Diana Karen, de son vrai nom Leucadia Constantia, qui serait d'origine russe, née à Kiev en Ukraine, mais le doute subsiste car certaines sources la disent allemande ou polonaise. Enfin, le doute plane sur le lieu de sa naissance, d'autant plus qu'elle a évolué en tant qu'actrice et ou réalisatrice en Europe, d'abord en Italie, puis en Allemagne. Or, je la cite quand même au milieu des créatrices russes parce que d'après tout ce que j'ai pu lire, hein, c'est une figure intéressante. Or, pour la situer, je dirais que toutes mes sources s'accordent à dire qu'elle est née en 1888, quant au pays de naissance, mystère, hein, laissons planer le mystère. Ceci dit, nous la retrouvons, comme je vous l'ai dit, en dehors de la Russie, en Italie plus précisément, en 1914, à l'âge de 26 ans, soi-disant après un divorce, hein, ce qui n'est pas confirmé. Ici encore mystère sur ses débuts d'existence. Et ce, pour devenir l'actrice vedette du cinéma italien, actrice du muet, car je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, nous sommes encore au temps du cinéma muet et en noir et blanc. Alors le film qui la propulse s'intitule Passione Cigana, Passion de Cigane, réalisé par un réalisateur italien nommé Ernesto Maria Pasquali, avec qui elle tournera d'autres films. Alors, je me suis intéressée à sa personnalité. C'est une femme qui s'était fait remarquer grâce à sa beauté élégante. En effet, j'ai pu voir les photos. Et surtout, son caractère non conventionnel. Bon, il semblerait qu'elle sortait des clichés habituels de l'actrice, comme l'actrice femme, hein, enfin la femme telle qu'on l'entendait à l'époque, nous dirons plus malléable. Et elle endossera d'ailleurs facilement le titre d'artiste intellectuelle. Car, paraît-il, ses connaissances artistiques étaient importantes, voire hors normes. Et de plus, elle pratiquait le piano, qu'elle jouait parfaitement, ou encore le dessin ou la peinture. Et elle se plaisait également à fréquenter l'élite intellectuelle et artistique de son époque. Alors en ce qui concerne sa carrière d'actrice, j'ai noté qu'elle était habile pour interpréter des personnages divers avec intensité et expressivité, et qu'elle excellait dans les rôles doubles. Bon, apparemment et aussi, ses goûts la portaient à incarner des femmes plutôt anticonformistes, complexes. Ça pouvait être des femmes adultères, des gitanes, des prostituées, des meurtrières aussi, entre autres. Bon, ce qui pouvait choquer aisément la galerie, mais selon ce que j'ai compris de son caractère, je n'ai pas l'impression que ça devait beaucoup la déranger. Alors elle tournera dans des films italiens jusqu'en 1922. Et elle réalisera elle-même plusieurs films, parfois en collaboration avec un autre réalisateur ou parfois seule, et dont elle sera souvent l'interprète principale. Alors hélas, la majorité de ses films se sont perdus, et ceux qui restent sont souvent incomplets. Mais il semble traiter d'un sujet qui lui tient à cœur, c'est-à-dire de femmes qui ne rentrent pas dans les normes de ce qui est admis par la société pour être convenable. Nous dirons cela comme cela. Alors, son premier film en 1916 s'intitule « Léa ». Il s'agit de l'adaptation d'un roman de l'écrivain politique connu milanais Felice Cavaiotti. Bon, je n'ai pas d'autres informations supplémentaires à vous proposer. D'autres films suivront également de 1916 et je vous donne la traduction en français. Il s'intitule « Le roman de Maude ». Et ce film est aussi l'adaptation d'un roman d'un écrivain français de la fin du 19e, début du 20e siècle, et nommé Marcel Prévost. Alors il semble qu'il s'intéressait, l'auteur s'intéressait à la psychologie des jeunes filles de bonne famille, comme on les nommait autrefois. Et le roman qui a inspiré Diana Karen s'intitule « Les demi-vierges ». Donc il s'agit bien d'un roman qui aborde le comportement des jeunes filles de bonne famille, c'est-à-dire de milieux aisés et éduqués, et qui sont obligées, ces jeunes filles sont obligées de se marier par convention sociale et aussi parce qu'elles n'ont d'autre choix sociétal à cette époque, fin 19e siècle, pour assurer leur sécurité. Et évidemment, elles doivent être pures, c'est-à-dire vierges, pour le mariage. Aussi, pour goûter à la liberté qui, contrairement aux hommes, leur est refusée, ben, contournent-elles les règles et s'adonnent-elles au badinage, au batifolage, au flirt, hein, pour tout résumer. Et cela tant que faire se peut, et sans compromettre évidemment leur virginité, étape indispensable pour leur assurer ce mariage bourgeois qui les mettra à l'abri des vicissitudes de la vie matérielle. Alors je pense que nous comprenons tous que Diana Karen, par son attitude anticonformiste et également au travers de son travail de créatrice, montrait qu'elle était une femme indépendante et libre. Aussi, je ne fus pas étonnée de lire que le film qu'elle avait réalisé, le roman de Maud, lui a valu maille à partir avec la censure. N'oublions pas que ce film a été réalisé au début du XXe siècle. Alors, elle a lu le livre, évidemment, l'a traduit au cinéma, ben, je suppose, à sa manière, hein, et peut-être a-t-elle noté ce que j'ai pu relever moi-même au cours de mes recherches pour comprendre le contexte général, car je n'ai pas lu le livre. À savoir ce passage écrit par l'auteur où le personnage principal, Maud, la jeune fille, s'exprime. Alors je cite cette jeune fille. « Si toutes les jeunes filles pensaient comme moi, mon cher, nous ferions notre petit 89. » Bon, je suppose qu'elle évoque la Révolution française. « Et nous gagnerions nos libertés de vive lutte. Liberté de sortir et de voyager seule, d'abord. Liberté de rentrer chez nous à l'heure qui nous plaît. » De ne rentrer que le matin, par exemple. Vous n'imaginez pas ce que cela m'amuserait de noctambuler. Liberté de dépenser de l'argent à notre fantaisie. Liberté d'avoir des amants. Eh oui, des amants. Ben, vous avez bien des maîtresses. Bon. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette jeune personne revendique l'égalité des sexes. Alors, quelle est la position de l'écrivain Marcel Prévost à ce sujet ? Qui lui est un homme, hein. Ça je sais pas, j'ai pas creusé la question, hein. J'ai pas cherché plus loin. J'ai pas trouvé surtout autre chose pour vous informer. Alors en 1917, Diana Karen réalisera le film Pierrot et Justice de femme, l'histoire d'une femme dont la maternité est illégitime. Encore un film intitulé La petite dame de porcelaine. En 1919, c'est la Signora del Rose, la Dame des Roses, Sléma, Ave Maria. Bon, c'est un petit questionnement pour ce dernier film qui comporte une connotation religieuse, hein, mais j'ai rien trouvé de particulier non plus en cherchant. Ou alors en 1920, la Vegente, qui signifie apparemment le voyant. Bon, en tout, elle a réalisé à peu près une dizaine de films. Pour ce qui concerne le film intitulé Pierrot, eh bien le rôle de Diana Karen sera prépondérant dans la nouvelle société cinématographique qu'elle intégrera, la David Karen. Car en effet, Diana Karen supervisera l'ensemble du film, c'est-à-dire l'histoire, la mise en scène, sans compter qu'elle interprétera également le rôle principal qui est celui masculin du Pierrot. Alors la gestion ne semble pas si simple au sein de cette société, David Karen, puisque des conflits, des procès éclatent, si bien que Diana Karen reprendra à son compte la société pour la rebaptiser Karen Film. Et elle y réalisera ses propres films tout en continuant de travailler avec d'autres sociétés de production, bon, sans doute pour alimenter aussi hein, financièrement sa propre société. Et elle s'investit donc à fond dans toutes ses multiples activités cinématographiques jusqu'à ce que survienne la crise du cinéma due en bonne partie à la Première Guerre mondiale, mais si bien qu'elle part en Allemagne pour suivre sa carrière d'actrice et jusqu'en France d'ailleurs. Et elle se produira aussi dans des films historiques. Elle incarnera apparemment et souvent des dames de la haute société. Elle tournera aussi dans un film qui a nécessité des décors somptueux. Il s'agit d'une reconstitution historique dans la Venise libertine de Casanova. Casanova étant le titre du film. Et si la production est française, le cinéaste est russe et se nomme Alexandre Volkov. Et c'est après une belle carrière réussie d'actrice au sein de belles productions internationales qu'elle mènera jusqu'à la fin des années 20, qu'elle mettra fin à sa carrière. Alors il est vrai que l'avènement du parlant dans les années 30 met fin en général aux carrières des vedettes du muet. Mais il est dit également que les régimes totalitaires qui se mettent en place à l'époque suppriment les petites industries indépendantes en influençant évidemment négativement sur les efforts d'émancipation des femmes. Ceci dit, Diana Karen fera encore une petite apparition dans un film en 1940 intitulé Manon Lescaut, mais la fin de sa vie sera surtout dramatique puisqu'elle décédera prématurément, assez jeune, à 52 ans, victime d'un bombardement en 1940 sur Aix-la-Chapelle. Et bien voilà pour cette émission de La Voix des Arts que nous allons interrompre maintenant puisque c'est l'heure de nous quitter. Mais ce n'est que partie remise car d'autres créatrices russes nous attendent le prochain numéro. Et ce sera toujours avec plaisir que je cheminerai avec elles et avec vous bien entendu en espérant que ce plaisir sera partagé. Et en attendant, et bien merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.